Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en 1979. Distinction est une enquête sociologique majeure dans laquelle Pierre Bourdieu étudie les liens entre les goûts culturels et la structure sociale de la France contemporaine. Loin de traiter les préférences en matière de musique, de peinture, de cuisine, de vêtements, de sport ou de loisirs comme des choix purement individuels, il les rapporte aux conditions de formation des personnes et aux positions occupées dans la hiérarchie sociale. Le livre associe données d'enquête, analyses statistiques et constructions théoriques. Son ambition est aussi philosophique, il conteste la vision selon laquelle le jugement esthétique serait universel et désintéressé. Bourdieu montre au contraire que les jugements sur le beau, le vulgaire, le raffiné ou le banal participent à des classements entre groupes sociaux. Distinction expose ainsi, à partir du cas français, une théorie de la reproduction des inégalités par la culture, dont les concepts de capital culturel, habitus, espace social et champ sont devenus centraux dans les sciences sociales. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le goût comme classement social plutôt que préférence privée. La proposition directrice de distinction est que le goût classe les objets, mais classe simultanément les personnes qui les jugent. Dire qu'une œuvre, un repas, un vêtement ou une activité est élégant, vulgaire, sérieux ou facile ne décrit donc pas seulement une qualité supposée de cet objet. Ce jugement situe aussi celui qui le formule par rapport à des groupes dont il veut se rapprocher ou se différencier. Bourdieu ne réduit pas ce mécanisme à une ostentation consciente. Les préférences les plus ordinaires peuvent fonctionner comme des marqueurs sociaux sans intention explicite de paraître supérieurs. Elles prennent leur sens dans un espace de différence. Apprécier une pratique peut aussi signifier refuser implicitement les pratiques associées à un autre milieu. Cette approche déplace le problème classique de la consommation. La question ne consiste plus seulement à savoir qui possède les biens les plus coûteux, mais quelle manière de les choisir, de les commenter et de les utiliser sont reconnues comme légitimes. Les oppositions entre goût du nécessaire, recherche du confort, valorisation de la forme ou rejet de la prétention deviennent alors des indices de rapports sociaux. La distinction désigne ainsi une différence relationnelle, non une qualité naturelle détenue par quelques individus. Cette thèse permet de comprendre pourquoi les débats esthétiques sont souvent chargés de jugements moraux et de frontières de classe. Deuxièmement, habitus et capital culturel expliquent la formation durable des dispositions pour expliquer la régularité des goûts sans les attribuer à une essence de classe. Bourdieu mobilise la notion d'habitus. Il désigne un ensemble de dispositions acquises au cours de la socialisation, surtout familiale et scolaire, qui orientent les manières de percevoir, de juger et d'agir. L'habitus ne fonctionne pas comme une règle consciente ni comme un programme rigide. Il rend plutôt certaines options familières, naturelles ou accessibles, tandis que d'autres paraissent étrangères, prétentieuses ou dépourvues de sens. Le capital culturel est décisif dans ce processus. Il comprend notamment la familiarité avec les œuvres reconnues, les compétences de langage, les titres scolaires et les manières incorporées de se comporter dans les univers culturels légitimes. Une éducation peut transmettre des connaissances formelles, mais la proximité précoce avec certains biens culturels procure souvent une aisance difficile à reproduire rapidement. Bourdieu montre donc que les inégalités culturelles ne résultent pas uniquement de revenus différents ou de choix individuels. Elles reposent aussi sur des ressources héritées et sur un rapport détendu à la culture qui peut être interprété à tort comme un talent naturel. Le livre éclaire ainsi le rôle de la famille et de l'école dans la continuité des positions sociales, tout en laissant place aux trajectoires où mobilité sociale et tension entre dispositions anciennes et nouvelles modifient les pratiques. Troisièmement, les enquêtes relient pratiques culturelles, éducation et positions dans l'espace social. La force singulière de distinction tient à la combinaison entre une vaste enquête sur les pratiques françaises et une théorie générale des rapports entre culture et pouvoir. Bourdieu examine des domaines très divers: fréquentation artistique, musique, photographie, alimentation, décoration domestique, habillement, sport et loisirs. Cette dispersion apparente est méthodique. Elle vise à établir que les goûts ne se distribuent pas au hasard et que des ensembles cohérents de pratiques correspondent à des positions sociales différenciées. Le niveau de diplôme, l'origine sociale et le volume de ressources économiques jouent un rôle majeur, mais Bourdieu insiste également sur la composition des capitaux. Deux groupes disposant de ressources importantes peuvent ne pas valoriser les mêmes styles de vie si leurs ressources sont davantage économiques ou culturelles. Il représente cet ordre par la notion de espace social où les distances entre positions renvoient à des différences de conditions d'existence et de disposition. Les styles de vie sont donc des traductions pratiques de positions objectives et non de simples étiquettes psychologiques. Cette démarche refuse deux explications simplistes, celle qui ferait du goût un choix entièrement libre et celles qui le déduiraient mécaniquement du revenu. Elle cherche plutôt à articuler structure sociale, parcours individuel et pratiques observables. Les données sont historiquement situées dans la France des années étudiées, mais la méthode reste influente pour analyser les consommations culturelles contemporaines. Quatrièmement, l'esthétique pure fonctionne comme une forme de pouvoir symbolique. Bourdieu critique l'idée selon laquelle la meilleure relation à l'art consisterait naturellement à apprécier la forme indépendamment de toute utilité, de toute émotion morale ou de tout contenu concret. Il nomme esthétique pure cette disposition qui valorise la distance, le désintéressement et la capacité à regarder les œuvres pour leur forme. Cette manière de juger n'est pas présentée comme universellement disponible. Elle dépend de conditions sociales qui donnent du temps, des instruments de compréhension et une familiarité avec les codes artistiques. Les groupes plus proches de la nécessité matérielle peuvent privilégier des œuvres ou des loisirs qui ont une fonction identifiable, qui racontent une histoire ou qui procurent un plaisir direct. Leur préférence est fréquemment disqualifiée comme inférieure par les détenteurs de la culture légitime. Le mécanisme central est alors celui de la violence symbolique. Une hiérarchie socialement produite se présente comme une hiérarchie évidente des valeurs. Les personnes dominées peuvent intérioriser les critères qui les dévalorisent, notamment lorsque l'institution scolaire consacre certains savoirs et certaines manières de parler comme neutres ou supérieures. Le livre ne dit pas que toute expérience esthétique est mensongère. Il demande plutôt quelles conditions permettent à une définition particulière de la culture de S imposée comme norme générale. Cette interrogation fait de la critique du goût une analyse des formes discrètes de domination. En dernier lieu, la portée durable du livre exige aussi une lecture critique de ses limites. Distinction demeure un outil puissant pour analyser les goûts culturels, les codes de présentation de soi et les formes de légitimité sociale. Il aide notamment à voir que la prétendue ouverture de certaines préférences peut elle aussi devenir un signe distinctif. Par exemple, lorsque la diversité des consommations manifeste une maîtrise des répertoires culturels. Ces concepts peuvent éclairer les médias, les plateformes numériques, les choix scolaires, les pratiques alimentaires ou les univers professionnels. Cependant, une lecture rigoureuse doit tenir compte de ses limites. Les enquêtes portent sur la France de la fin des années 1960 et des années 1970, avec une structure de classe, des institutions culturelles et des modes de consommation qui ne sont pas identiques à ceux du présent ou à ceux des autres sociétés. Des critiques soulignent aussi la densité de la prose, certaines difficultés méthodologiques et le risque de donner aux groupes sociaux une cohérence excessive. La place relativement limitée accordée à certaines différences, notamment raciales ou migratoires, appelle également des compléments selon les contextes étudiés. Enfin, le livre peut sembler paradoxal, il dénonce les privilèges culturels au moyen d'un langage académique exigeant. Cette tension ne ruine pas son apport. Elle invite au contraire à appliquer sa réflexivité aux outils mêmes de la sociologie, à ses catégories et à la position sociale de ceux qui produisent les jugements savants. En conclusion, Distinction convient en priorité aux étudiants et chercheurs en sociologie, anthropologie, sciences de la communication, éducation, histoire culturelle et études des médias. Il intéressera aussi les lecteurs qui souhaitent comprendre pourquoi des préférences apparemment banales peuvent devenir des sources de jugement, de gêne, de prestige ou d'exclusion. Son bénéfice intellectuel majeur est de fournir un vocabulaire précis pour relier les choix individuels aux ressources, aux institutions et aux trajectoires sociales. Le lecteur apprend à interroger la fausse évidence de catégories comme bon goût, culture légitime ou choix personnel, sans devoir conclure que toute préférence est calculée ou sans valeur. Le livre se distingue des essais généraux sur le snobisme ou la consommation ostentatoire par son ampleur empirique et par son architecture théorique. Bourdieu ne se limite ni aux produits de luxe ni aux élites visibles. Il analyse des ensembles de pratiques ordinaires et montre comment elles s'organisent dans un espace social où capital économique et capital culturel se combinent de manière variable. Cette articulation entre enquête, théorie de la pratique et critique du pouvoir symbolique explique sa place durable dans les sciences sociales. La lecture demande de la patience, le texte est long, dense et historiquement ancré. Mais cet effort est récompensé par une grille d'analyse qui demeure très féconde, à condition de ne pas transformer ces catégories en formules automatiques et de les adapter avec prudence aux sociétés contemporaines. Si vous souhaitez soutenir Pierre Bourdieu, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.